Bonsoir.
Bonsoir.
Pour
Bonsoir.
Commencer, vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, tous les trois ? Maëlle ?
Moi, c'est Maëlle Diné. Donc, du coup, je suis arrivée au Centre Réseau d'économie solidaire au mois de septembre, donc en tant qu'apprentie, donc pour la mission, en fait, enfin, en tant que chargée de mission du bloc Cressol. Donc voilà, de manière globale.
Moi, c'est Romain Lalande. J'ai d'abord été salarié. Aujourd'hui, je suis coprésident du Cressol. Voilà.
Et Maxime.
Et bonsoir. Et donc Maxime de Rostelan. Moi, j'ai monté l'association Ferme d'Avenir en 2013. Et puis, à côté de ça, j'ai monté Bluebees, une plateforme de financement participatif entièrement dédiée à l'agroécologie. Donc voilà, ce sont deux projets qui se rejoignent aujourd'hui.
Et on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, le Cressol. Alors, le Cressol, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, le Cressol, c'est un réseau d'initiatives solidaires en région centre. L'idée, c'est de repérer, de mettre en réseau les initiatives qui contribuent à leur échelle à accompagner les transformations globales, économiques, sociales, de toutes les transitions en fait.
Animateur de transition, comment vous pouvez définir ça justement pour nos auditeurs ? Comment on peut simplifier
Ça va aller de repérer, accompagner, stimuler, outiller tous les acteurs, toutes les initiatives autour de ces transitions. Donc ça va se faire avec des outils, avec des compétences, des ressources. Par exemple, on a d'abord des outils pour identifier, on a une fonction de réseau vraiment au niveau de la région, où là ça va nous permettre d'avoir une connaissance d'un certain nombre d'acteurs, de pouvoir mettre en lien des gens et de mettre en lien des compétences, des expertises, avec des besoins, des envies, des attentes. Après, on va avoir tout un volet plus outillage, donc des outils principalement numériques, mais qui finalement sont des ressources qu'on met en commun et auxquelles chaque membre du réseau ou même des personnes en dehors du réseau pas encore adhérentes vont pouvoir contribuer. On va avoir un agenda sur lequel on va référencer des événements pour pouvoir se tenir au courant, s'informer près de chez soi, savoir ce qui se passe à côté de chez soi, donc c'est agendacitoyen.org, sur lequel chacun va pouvoir contribuer en région. Après, on a une carte, c'est Archipel au centre, qui a quelques années déjà, sur lesquelles on va pouvoir renseigner les initiatives qu'on retrouve près de chez soi, qui est une carte, autant pour les événements que pour la carte, ce sont des données ouvertes, donc qui peuvent être utilisées par toute autre carte ou tout autre agenda qui souhaiterait utiliser les informations qu'on y met. Et puis enfin, on va avoir un blog, donc qui est un blog qui
on
est
en
à
parlera,
la base...
Ouais, on en parlera un peu plus dans l'émission. Vraiment, le Cressol, à la base, existe depuis combien de temps ?
Le Cressol, c'est un réseau qui a 10 ans aujourd'hui,
ouais.
Qui a eu plusieurs phases, dont une dernière phase, on va dire, il y a 2-3 ans, où on s'est approprié le numérique. Et avant, on accompagnait la coopération. Aujourd'hui, on accompagne la coopération, mais en plus, on est apte à l'outiller, autant avec des formats, des méthodes d'animation participative pour faciliter l'action collective, qu'avec des outils numériques, qu'avec des outils en fait, du 21e siècle.
Donc, ça a 10 ans, c'est une association aujourd'hui. Vous, votre rôle à vous deux au sein de l'association, vraiment, c'est quoi ? Au jour le jour ?
Moi, je suis coprésident. Donc, on est un collectif au conseil d'administration et puis on a plusieurs coprésidents. On se répartit les rôles habituels d'une structure. Porter le projet associatif, représenter l'asso. Et puis, chacun à notre niveau, moi, je suis plus sur les outils numériques collaboratifs. C'est plus cette dimension-là que je vais porter, la dimension numérique collaboratif et bien commun. Et puis, Maëlle.
Donc, moi, en tant que chargée de mission pour le bloc Cressol, en fait... Moi, je suis chargée de mettre en place des dossiers thématiques, notamment repris par... on reprend les grands thèmes du film demain. Et le premier, qui est en train de se terminer, qui est sur les questions des alternatives alimentaires, ou plutôt comment l'agriculture peut être un moyen d'aller vers des transitions citoyennes. Donc c'est plus ça. Et puis quotidiennement, je fais un travail plutôt de veille numérique et aussi documentaire sur justement toutes ces questions-là. Et puis je les agrémente en illustrant par des projets. Donc je me déplace sur le terrain en région et puis je rencontre ces initiatives. Et puis du coup c'est un apport plutôt concret. Et puis j'incite les acteurs que je rencontre à écrire des articles par eux-mêmes plutôt que d'écrire à leur place. Ça nous semblait au Cressol intéressant de les laisser écrire ce qu'ils vivent quotidiennement. Et puis c'est notre façon un petit peu de montrer qu'en région aussi il se passe des choses et que au niveau alimentaire notamment et des questions agricoles, il y a des gens qui se bougent et notamment donc Ferme d'Avenir qui est là aujourd'hui.
Les valeurs du Cressol pour vous, ça serait quoi si on devait résumer ça au niveau des projets que vous choisissez, au niveau de ce que vous défendez vraiment ?
Humain, coopération et commun.
C'est vraiment ça, c'est de toute façon
coopération,
oui, vu que c'est un réseau.
C'est agir ensemble pour construire une société qui nous va, donc une société humaine avec une gouvernance horizontale, partagée, des ressources qu'on met en commun, voilà.
Il y a combien de membres aujourd'hui ?
Un nouveau monde, quoi.
Enfin, du Cressol, parce que 10 ans, ça fait déjà une grosse...
Aujourd'hui, on a une cinquantaine de membres qui sont soit des individuels, soit des structures. Et là, comme je disais, depuis 3 ans, on travaille des nouvelles expertises, tant sur le numérique que sur la coopération. Donc aujourd'hui, on a un discours plus clair. Et là, dès janvier, on va commencer à lancer des campagnes d'adhésion en étant plus clair sur aussi ce qu'on peut apporter à nos adhérents. Donc là, on est un peu dans une phase de transition au sein même du Cressol qui aboutit là en janvier. Et content du travail qu'on mène.
Et salariés ou bénévoles, du coup, c'est votre activité principale ? Les membres du Cressol font ça en tant qu'activité principale ? Vu que c'est une asso...
Moi, je suis bénévole. Après, j'ai une activité pro où des fois, je co-interviens avec le Cressol, mais c'est toujours séparé. Et c'est toujours des choses séparées.
Oui, en général, vu qu'il y a des structures aussi qui sont adhérentes du Cressol, c'est leur activité pro, mais qui finit par être reliée au Cressol, c'est ça ?
Ça arrive.
Ça arrive, ah oui, pas forcément.
Notamment sur l'accompagnement de la coopération, quand on va mener une formation... Il arrive que sur un sujet précis, on fasse appel à une expertise au sein du réseau Cressol.
En premier lieu, c'est vraiment le réseau, c'est vraiment la base du Cressol.
Complètement.
On en parlait un peu en antenne, le Cressol, faut pas confondre, c'est pas quelque chose de régional qu'on retrouve dans toutes les régions.
Non, c'est régional propre à la région centre.
Faut pas confondre avec les...
Avec les chambres régionales d'économie
sociale.
Qui sont inscrites dans la loi et ont des missions propres.
C'est important de préciser que... Parce que du coup, Cress et Cressol, on peut...
Oui,
on peut faire l'amalgame,
mais
ce n'est pas la même chose.
On est en lien, on est en contact, mais c'est vrai qu'on a des missions assez distinctes. On est clair avec ça, avec eux, ouais.
Du coup, dans le réseau, on peut retrouver qui ? Dans
Alors,
ce réseau ?
Dans ce réseau, on peut retrouver tant des individuels, donc des gens soit qui, à titre individuel, s'engagent et construisent une société un peu différente, soit des collectifs, qu'ils soient formels ou informels. Donc des fois c'est des individuels qui sont dans des collectifs mais pas montés en tant qu'association ou entreprise, donc ils peuvent pas adhérer, donc ils adhèrent en tant qu'individus. Mais globalement on va retrouver tous les acteurs qui contribuent à développer des projets d'innovation sociale sur les territoires.
Et justement l'innovation sociale, alors qu'est-ce que c'est pour nos auditeurs? Comment on peut vulgariser un
Alors
peu...
l'innovation sociale, c'est assez dur d'en donner une définition courte parce qu'en fait par nature c'est complexe. L'idée pour le simplifier, c'est de se dire que c'est des innovations qui ne vont pas uniquement s'appuyer sur leur plus-value économique. C'est de se dire que ce n'est pas parce qu'il y a un débouché économique que cette innovation elle a du sens socialement. Donc, une innovation, un projet, quel qu'il soit, il constitue une innovation sociale à partir du moment où il répond à un besoin réel, non satisfait du territoire sur lequel il s'ancre. Et donc, il y a des indicateurs et des marqueurs pour ça, c'est que déjà, un projet d'innovation sociale, il est très ancré à son territoire. Parce qu'il répond à des besoins, il suscite un engagement, il suscite un engouement, et il suscite souvent un projet plus collectif qu'individuel.
Il y a également l'outillage, du coup c'est un peu plus ta partie, l'outillage numérique, tu nous en parlais avant la coupure musicale, notamment avec la carte archipel.
Ouais, donc la partie outillage, elle est assez représentative de la fonction réseau. L'idée c'est vraiment d'être un réseau, et de se dire, on est un réseau, c'est pas pour rien, c'est quoi la plus-value qu'on a à travailler ensemble, et c'est quoi l'intérêt à être ensemble. Donc cet intérêt-là, il est de constituer une base de connaissances communes, des ressources communes qui vont nous aider chacun aussi individuellement dans nos collectifs pour mieux agir ensemble. Donc ça va être tant des cartes, des agendas, des éléments qui vont nous connecter, nous relier, que des formations ou des éléments comme ça de prestations aussi que peut réaliser le Cressol. Donc ces ressources communes, elles peuvent être gratuites et contributives apportées par tout le monde, aussi sous forme de formation, et même nos formations donnent lieu à la production de ressources qu'on met librement en partage derrière.
Et l'idée, c'est qu'à la base, c'était le Cressol qui fournissait la plupart des ressources, mais que maintenant, la plus grosse partie vient des membres eux-mêmes qui fournissent aux autres membres leurs ressources.
Ouais, on co-construit l'ensemble de nos ressources, que ce soit les contenus de formation ou le blog sur lequel elle travaille dans le cadre des dossiers qui sont eux aussi co-construits.
Et l'accompagnement, la dernière mission, l'accompagnement de projet, c'est un accompagnement en quoi ? C'est humain, financier, matériel, en...
L'accompagnement de projet, il est sur la partie humaine et d'outillage collectif. C'est plutôt, ok, on a un projet, il y a des acteurs qui vont nous conseiller sur les financements, sur les formes juridiques, sur la partie thématique. Si on est dans l'agriculture, il y a des gens qui nous conseillent sur l'agriculture. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on est sur la base cœur d'un projet collectif. De se dire que des projets d'innovation sociale, ils sont souvent collectifs. Et donc, dans un projet collectif, comment on fait pour respecter chacun, pour garantir une efficacité, pour s'outiller, mais tout en n'oubliant pas le côté humain. Donc en faisant un peu ce qu'on disait un peu à l'entracte, des allers-retours entre des moments de co-construction et puis des moments d'efficacité, d'organisation et d'outillage.
Et enfin, il y a le blog, Maëlle, c'est la partie sur laquelle tu es attitrée d'ailleurs.
Oui, tout à fait, chargée de mission du blog Cressol. Donc, comme j'ai pu un petit peu l'expliquer avant, donc, l'objectif du blog, c'était de le redynamiser par l'intermédiaire de dossiers thématiques. Donc, on a repris une ligne éditoriale qui s'inscrit dans les différents axes traités dans le film demain, donc, dont le premier est sur les questions des alternatives agricoles ou comment on va vers une transition, enfin, ou des transitions agricoles. Et du coup, pour ça, c'est pareil, c'est de la co-construction, comme on a pu le dire avant. Donc c'est participatif, donc le blog est participatif. Donc pour ce dossier thématique, donc il y a eu un travail de recherche d'informations, donc un travail vraiment d'axe thématique sur chaque article du dossier reprend des axes. Donc par exemple la question du foncier, on traite un peu tout ça, et donc un travail documentaire où on a été chercher de l'info plus théorique, et puis donc l'illustrer par des initiatives régionales, donc des rencontres que j'ai pu faire ou qu'on a pu faire, et donc inciter ces porteurs d'initiatives à écrire, à co-construire toute cette interconnaissance sur les questions agricoles. Donc c'est l'aboutissement de ce travail pour... c'est jamais terminé, donc... C'est l'intérêt aussi du blog, c'est qu'on peut écrire des articles, continuer, et ces questions-là sont jamais terminées.
Ce blog, c'est vraiment quelque chose de nouveau, vous y pensez depuis longtemps, Cressol, à rajouter ça en plus de vos missions?
Ça fait un bout de temps qu'on a une partie du site qu'on appelle blog. Ça fait peu de temps qu'on a un blog et on a affirmé la volonté qu'il soit collaboratif.
De le séparer vraiment. C'est ça, c'est que le projet a évolué.
C'est plus un outil de communication du réseau, de raconter ce qu'on fait, c'est un outil au service de tout adhérent du réseau qui voudrait se l'approprier pour y passer un message.
Voilà. Et c'est à travers ce blog justement qu'on peut faire le lien avec Ferme d'Avenir. Comment vous vous êtes rencontrés, Cressol et Ferme d'Avenir?
Bah, du coup, en fait, suite à un travail un petit peu de recherche documentaire, tout ça, moi personnellement je suis tombée, et puis d'autres on m'en avait déjà parlé, donc tombée sur Ferme d'Avenir, sur les questions que suscite cette association, et du coup la volonté en se questionnant ensemble, c'était de voir justement Ferme d'Avenir, où l'association en est sur toutes ces questions agricoles, et puis ça nous semblait intéressant de mettre en avant toutes les notions que traite l'association, et puis justement que ces informations puissent illustrer notre premier article, puisque l'objectif c'est de montrer en quoi on parle d'agriculture avec S, donc agriculture au pluriel, qu'il n'y a pas qu'un type d'agriculture et que c'est en constante évolution, et du coup Ferme d'Avenir nous semblait un bon interlocuteur pour discuter de ces questions là
du coup Ferme d'Avenir, Maxime, t'es le président de l'association ?
Non, le directeur.
Le directeur, autant pour moi. Oui, c'est une association. Cette association, tu nous l'as dit en première partie, elle existe depuis combien de temps ? Tu l'as fondée quand, du coup ?
On l'a fondée en 2013.
En 2013, et...
Alors en fait, autour d'un projet originel, l'idée c'était d'essayer d'évaluer la viabilité économique, technique et sociale d'une agriculture qui s'inspire de la nature, plutôt qu'une agriculture qui a tendance plutôt à la détruire. Et donc du coup, on parle de permaculture, d'agroécologie. Et on a donc commencé avec une première ferme en Touraine, donc à Mont-Louis-sur-Loire, au domaine de la Bourdaisière. Sur 1,4 hectare, l'enjeu, c'est d'essayer d'arriver à un équilibre économique au bout de quelques années. On avait prévu d'arriver à l'équilibre au bout de la 4e année. On ne le sera peut-être que la 5e ou la 6e année. Et on est sur des chiffres qui sont assez intéressants, parce que l'enjeu, c'est d'essayer de montrer qu'on peut créer 6 fois plus d'emplois par unité de surface que le maraîchage chimique. Je dis pas maraîchage conventionnel, hein, parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas été consulté pour établir ces conventions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le maraîchage qu'on connaît et qui représente le modèle dominant est surtout très chimique et ultra mécanisé. Donc voilà, donc on a monté cette première ferme. Et depuis, les activités se sont un petit peu multipliées, parce que c'est quelque chose qui répond évidemment à énormément de besoins des citoyens. Et aujourd'hui, l'agriculture se retrouve un petit peu dans une impasse, et donc on montre comment essayer d'amorcer une transition.
Cette ferme à Mont-Louis-sur-Loire, elle est ouverte au public ? S'il y a même des ventes ?
Tout à fait, c'est évidemment ouvert au public. Tout est totalement transparent, ça veut dire que vous avez nos comptes sur le site de Ferme d'Avenir, qui va bientôt d'ailleurs, en janvier, il y aura le site vraiment dédié à la ferme de la Bourdaisière, et puis le site de la Sauce. Et donc vous avez tous les comptes, vous avez comme on est suivi par AgroParisTech, donc par des ingénieurs qui ont fait une thèse sur la viabilité économique des micro-fermes inspirées de la PERMA. On a aussi donc tous les temps de travail, les investissements, etc. Et la ferme elle-même se visite. La ferme est ouverte de 14h à 18h pendant toute la période avril à octobre. Et puis on fait deux visites par mois qui sont commentées. Donc moi j'en fais une partie et puis Xavier Mathias va en faire une autre partie. Xavier Mathias qui lui est de chez Digny et qui a monté le champ de pagaille et qui a rejoint la SOS récemment.
Et il y a également des ventes sur place.
On fait des ventes le mercredi et le vendredi. Et puis on a aussi un système de paniers auquel vous pouvez vous abonner. Donc on fait des paniers de plusieurs tailles. Et puis il y a une douzaine de points de dépôt à Tours et dans l'agglo. Donc n'hésitez pas pour le printemps à vous abonner à ces paniers.
Alors les objectifs vraiment de Ferme d'Avenir ?
Oh ben l'objectif, il est assez simple, c'est d'essayer de faire la révolution dans le domaine de l'agriculture. Parce que aujourd'hui, le modèle dominant agricole, on l'accable, à juste titre, souvent, de plein de mots. Il a détruit la biodiversité. Je rappelle qu'en 40 ans, on a détruit 40% des animaux sauvages. 40% des animaux sauvages ont disparu en 40 ans. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants, à nos petits-enfants? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la courbe, elle est dans la même tendance et que pour 2050, c'est 70% des animaux sauvages qui ont disparu. Un des grands responsables, c'est l'agriculture. Donc, extinction de la biodiversité, l'agriculture est largement responsable. Ensuite, sur le dérèglement climatique, selon les scopes qu'on prend, l'agriculture est responsable de 20 à 40% des émissions de gaz à effet de serre. Sur les problèmes de santé, on est tout à fait conscient que les perturbateurs endocriniens, donc les pesticides, ont à manger du poison, on va finir par dégénérer notre espèce. En gros, on a une agriculture aujourd'hui, alors on a plusieurs types d'agriculture en France, il y a plusieurs types d'agriculture globalement, mais le modèle dominant qu'on a en France n'est pas du tout représentatif de l'agriculture au niveau mondial. Je rappelle que 90% des agriculteurs dans le monde n'ont pas de tracteur. D'accord ? Donc c'est pas, il faut pas nous faire croire que ça doit être avec des gros tracteurs, forcément c'est pas vrai. Et d'ailleurs, les gros tracteurs qu'on a en France ne nous nourrissent pas nous, ils nourrissent le bétail et les réservoirs de nos voitures. Donc il faut vraiment juste savoir qu'on est dans ce contexte-là. Et en fait, la beauté de la permaculture, c'est que quand on dit souvent le problème, c'est la solution. Et là, je viens de décrire l'agriculture comme une source de problème. Mais c'est dommage, c'est absurde. Voyons-la comme une source de solution. Sur la biodiversité, quel est le seul moyen de préserver les écosystèmes, de les régénérer? C'est justement l'occupation des territoires ruraux, c'est l'agriculture. Le seul moyen de lutter contre le dérèglement climatique, de capter du carbone, le seul moyen qu'on connaisse à date, c'est la photosynthèse, c'est donc l'agriculture. Donc c'est absurde de penser que le seul moyen qu'on ait de lutter contre le dérèglement climatique, c'est précisément l'un des plus gros émetteurs et l'un des plus gros contributeurs. La santé. La santé, c'est ce qu'on mange, on est ce qu'on mange. Donc le seul moyen qu'on ait de s'assurer d'être en bonne santé en permanence, c'est de savoir qu'on mange des choses sans pesticides et sans poison. Et enfin, le dernier, alors je ne vais pas parler de la pollution de l'eau, parce qu'on sait aussi que par exemple, en Bretagne, les algues vertes, etc. Voilà, je ne vais pas parler des inondations. Les inondations, ça coûte 1,5 milliard d'euros à nos impôts. Mais il n'y a pas de raison que ce soit nos impôts. C'est les agriculteurs de l'abri qui ont saccager leur sol et qui du coup présentent une semelle de compactage qui fait qu'ils ne peuvent plus absorber d'eau. Donc bref, le dernier sujet le plus important pour moi aujourd'hui, parce que c'est celui qui parle aux gens, à part la santé quand même, c'est l'emploi. On est dans une agriculture, on est passé de 10% d'agriculteurs à 2% d'agriculteurs en 50 ans, d'accord ? Il faut juste se dire que c'est pas possible. C'est pas possible pour une bonne raison. La preuve, c'est qu'on importe 4 milliards d'euros de fruits et légumes en France chaque année. On importe 4 milliards d'euros de fruits et légumes par an en France et il y a 5 millions de chômeurs. C'est absurde. Rien que dire ces deux chiffres dans la même phrase, c'est proposer une équation qui ne demande qu'à être résolue. Donc, commençons à travailler ça. Et donc, Ferme d'Avenir, c'est un petit peu sur cette base-là que s'est constitué le projet. Donc, pour résumer, le projet originel, c'est de la R&D, c'est une ferme, une micro-ferme, donc qui fait 1 hectare 4 à Mont-Louis-sur-Loire et qui a pour ambition de sortir 100 000 euros de chiffre d'affaires sur 1 hectare 4. C'est tout à fait possible. C'est possible, mais ça prend du temps. Le maraîchage, c'est pas très compliqué, mais ça s'apprend. Et donc il faut le faire. Et donc du coup, nous, on est dans la phase où c'est quand même compliqué. On n'est pas forcément dans les clous par rapport à nos objectifs originels. On rétablit la barre. Cette année, il faut dire, a été quand même assez compliquée hein. En termes de météo. Tous les maraîchers en région centre ont perdu entre 20 et 50% de leur production. Hein. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a plu pendant 3 mois et après, il y a eu 3 mois de canicule. C'est un petit peu compliqué pour les plantes. Mais voilà, donc le premier projet, c'est de la R&D, de la recherche et développement, sur la Bourdaisière. Le deuxième axe d'action, c'est de faire de la sensibilisation, de la formation autour de ces thématiques. Donc on a une boîte à outils qui est visitée plus de 30 000, il y a 30 000 visiteurs uniques par mois qui, sur le site internet qui vont sur cette boîte à outils, donc elle est quand même relativement appréciée et utile a priori. On fait des formations, donc on fait des formations courtes de 2 jours, genre tailler ses arbres, ou créer une mare, ou faire ses semences. On a des formations plus longues, de 5 jours, créer sa micro-ferme, des CCP, donc des cours certifiés de permaculture, qui eux font 15 jours, et on a cette fameuse formation paysiculteur, qui sur 6 mois, forme des personnes qui pourront animer, catalyser des projets alimentaires territoriaux dans leur région, et donc on leur donne un petit peu toutes les compétences nécessaires. Alors c'est pas nous qui leur donnons, là on a la chance d'avoir une trentaine d'intervenants. La semaine dernière on était avec Paul Ariès, qui sont quand même des gens qui sont de renommée, et donc qui permettent de passer pas mal de messages. Donc ça c'est le deuxième axe, c'est la formation, on fait aussi du conseil, formation, sensibilisation, conseil. Et le troisième axe, qui est celui qui me prend à moi le plus de temps aujourd'hui, c'est le lobbying. Parce que ça ne sert à rien de se mentir, aujourd'hui, la conjoncture est absolument défavorable à l'agriculture bio. Pour une raison simple, hein. Avec un baril à $50, vous pouvez courir aussi vite et bêcher aussi fort que vous pouvez, vous ne serez jamais aussi fort qu'un tracteur. En revanche, le jour où le baril vaudra $500, on saura plus se nourrir. Donc il faut absolument rétablir cette distorsion de concurrence et commencer à faire du lobbying. Alors c'est très facile hein, pour les lobbies agro-industriels, ils ont tellement de sous qu'ils ont 2000 lobbyistes à temps plein à Bruxelles qui les aident à écrire les lois, qui aident les députés à écrire des lois qui leur sont favorables. Nous on n'a pas ça, on n'est que des citoyens. Et donc du coup, Ferme d'Avenir se positionne comme lobbyiste citoyen ou comme puissance lobbyiste citoyenne, justement pour essayer de rétablir cette distorsion de concurrence. Et ça, c'est le plaidoyer qu'on a sorti il y a maintenant un mois, qui résume en 150 pages les externalités des agricultures. Autrement dit, combien ça coûte réellement l'agriculture chimique ? Encore une fois, si jamais les inondations, en fait, elles étaient répercutées, le milliard et demi était répercuté sur les fromages de l'abri, vous verrez que les fromages pas bio de l'abri, ils coûtent plus cher que des fromages bio. Donc si jamais on répercutait tous ces coûts cachés, ou voilà, qui sont aujourd'hui externalisés, ça permettrait de ramener le bio et le chimique à des prix qui sont comparables. Et donc ce plaidoyer accouche au moins d'une chose, il y a une deuxième qui apparaîtra l'année prochaine, c'est la comptabilité mutante, mais là aujourd'hui on a sorti une pétition, donc il y a une semaine, une pétition qui fait 10 propositions de loi sur, en premier lieu, l'emploi et la formation, en deuxième lieu, le financement, et en troisième lieu, le foncier. Donc on a 10 propositions qui permettraient réellement d'amorcer la transition écologique vers une agriculture qui soit celle dont je parlais, qui est une agriculture qui est positive
et durable. Pour l'écosystème. L'idée, c'est une agriculture durable.
L'idée, c'est d'obtenir notre résilience. Je veux dire un truc, moi je pense réellement, on le voit, 40% des animaux sauvages ont disparu en 40 ans, et ça devrait être un signal comme ça, quoi. Rouge vif pour tout le monde, il n'y a aucun candidat à la présidentielle sauf un qui en a parlé, donc c'est eux, ce qui les intéresse, c'est de savoir si la retraite on l'aura à 62 ou à 65 ans, on s'en fout, ils peuvent pas nous le promettre en plus. Donc ça devrait être un signal fort. Moi je pense qu'il y a vraiment un risque que dans 100 ans, il n'y ait plus d'humains sur cette planète. D'accord ? Je pense vraiment qu'on en est là. Et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a plein d'économistes et d'environnementalistes qui, depuis des années, Denis Meadows avec le Club de Rome de 72, il n'en peut plus, là. Lui, il est out. Il dit, laissez-moi tranquille. Vous vous êtes tous suicidés. Personne n'écoute rien. Donc, il faut absolument faire en sorte de se servir des outils dont on dispose. Et l'outil principal dont on dispose, le premier, ce qui doit être le socle de ce changement, c'est l'agriculture, c'est notre alimentation. Donc il faut absolument le faire, et il faut réellement mettre ça dans un prisme qui soit systémique. C'est-à-dire, c'est ce dont je parlais, biodiversité, climat, santé, pollution, donc traitement de l'eau, et emploi. Et là, on a vraiment quelque chose qui est un projet qui est assez consistant et qui va nous occuper pendant 30 ans, hein, minimum. Enfin, on a 20 ans pour changer le monde, donc...
Dans le cadre de Ferme d'Avenir, justement, vous êtes en lien avec d'autres réseaux locaux qui traitent de ces questions d'installation en agriculture durable ?
Alors nous, on est évidemment adhérents du GAPTO, donc du groupement d'agriculteurs bio de Touraine. On est évidemment adhérents des réseaux Impact et ADR, qui sont des super réseaux qui font plein de choses sur les territoires, hein, qui sont d'ailleurs dans toutes les régions et dans tous les départements, et qui accompagnent les porteurs de projets. On est en relation avec eux au niveau local, mais aussi au niveau national. En tout cas, on essaie d'avoir des bonnes relations, parce que enfin, on se bat vraiment pour la même chose. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer. Alors, c'est pas toujours facile, hein, on connaît les... les petites querelles entre assos, mais c'est d'essayer de faire corps, parce qu'en fait, en face de nous, on a quand même la FNSEA qui pèse des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards d'euros par an, et c'est face à eux qu'il faut, c'est face à eux qu'il faut proposer une alternative. Et donc oui, on discute, on travaille, on n'est pas toujours d'accord sur tout, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut aller dans ce sens-là, et on les salue bien.
Durable, ça va forcément avec local pour l'agriculture.
Bah, en fait, si vous buvez du café, déjà vous pouvez répondre à cette question. C'est pas forcé. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, du vin, ça se fait par ici, mais ça se fait beaucoup moins en Afrique ou ça se fait beaucoup moins en Angleterre. Donc si non, ce qu'il faut, c'est être raisonné. Juste moi, le chiffre, s'il y a un chiffre à retenir, le chiffre qui m'a fait verser dans l'agriculture il y a quelques années, c'est que en 1940, avec une calorie fossile, on produisait 2,4 calories alimentaires. D'accord ? Avec un petit peu de pétrole ou de charbon, on produisait beaucoup de calories, deux fois et demi plus de calories alimentaires. Aujourd'hui, il faut 7 à 10 calories fossiles pour faire une calorie alimentaire. Et ça, c'est effectivement le côté mondialisation. C'est-à-dire que ce que vous avez dans votre assiette, surtout si c'est un plat cuisiné, il a fait déjà 2500 km. Donc évidemment, ça, faut complètement économisé là-dessus, et il faut vendre autant que possible en local, bien sûr. Et c'est ce qu'on invite à faire, hein. Nous, c'est évidemment, nous, à la ferme de la Bourg des Hières, on ne vend que on vend tout à moins de 25 km, et c'est ce qu'on invite à faire. C'est pas toujours possible, les exemples du café, du foie gras, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut avoir une agriculture qui nous aide à nous en sortir, il faut absolument avoir des fermes qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Et aujourd'hui, on est très loin de ça.
Et avec les micro-fermes, c'est l'idée.
Alors les micro-fermes, c'est l'idée. Alors nous, on s'inspire de la permaculture. Alors la permaculture, c'est un gros mot, hein, parce que la permaculture, on dit que ça vient de l'agriculture permanente, mais c'est bien plus large que ça. Hein. C'est une méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. Je le refais, méthode de conception d'écosystèmes humains équilibrés. Donc ça veut dire qu'en gros, on peut faire de la permaculture en gérant une émission de radio, ou en gérant une entreprise. Ou on aimerait bien que nos politiques fassent de la permaculture. Ils voient notre territoire comme un écosystème humain équilibré. Donc la permaculture, c'est ça, et donc au niveau d'une ferme, évidemment, l'idée, c'est de se servir des ressources qu'on a sur place, donc la biodiversité, le sol, l'humus, le soleil, le vent, etc., ou des animaux, et tout ça, c'est de l'énergie, et cette énergie, la convertir en le plus d'aliments, de nourriture possible.
Un peu dans le même sujet, il y a aussi Bluebees, tu nous en parlais en tout début d'émission.
Ouais, Bluebees, c'est une plateforme de financement participatif que j'ai lancée en 2012, et qui a pour principal objectif de financer des projets agroécologiques en France et dans les pays du Sud. Ça avait commencé dans les pays du Sud, et maintenant c'est beaucoup plus recentré sur la France. Et donc on fait du don avec contrepartie. Par exemple, vous filez 20 euros et vous allez récupérer un panier bio, ou vous filez 100 euros et vous allez passer un week-end dans la ferme. Donc on fait soit du don, soit du prêt. Et le prêt, il est rémunéré. C'est du prêt rémunéré à 2% généralement, donc c'est 4 fois le livret A. Donc aujourd'hui, en ce moment, il y a un projet dans le sud de la France où on rémunère à 2%. Donc vous pouvez prêter de l'argent jusqu'à 1000 euros. Et pour l'instant, depuis 2012, on a zéro casse. Donc ça veut dire que tous les projets ont remboursé et que globalement, les gens, ils gagnent 4 fois le livret A en sachant ce qu'ils font avec leur argent.